Bonjour Monsieur Mermet, nous sommes lundi 25 je crois. Je suis en train d'écouter votre émission sur les détenus et j'espère de tout cœur que Monsieur Sarkozy, l'Africain, écoute cette émission, vu qu'il a encore fait un coup énorme encore dans une cité, je ne sais quoi. Donc j'espère de tout cœur que Monsieur Sarkozy, l'Africain, écoute votre émission. C'est Charlie de Bordeaux, salut.
Je me permets de vous appeler parce que je suis actuellement en train d'écouter votre émission. Je suis dans la région stéphanoise. Je suis moi-même surveillante pénitentiaire et votre émission d'aujourd'hui, donc du 25, traite de la vie dans une maison d'arrêt des anciens détenus qui sont en train de raconter comment ils vivaient leur vie en prison. Je suis interloquée parce que j'entends, parce que moi je travaille en maison d'arrêt, c'est pas comme ça, c'est pas le métier que je fais. On ne les traite pas comme ça, c'est pas vrai. Donc je suis un petit peu révoltée. Et quand j'entends un médecin qui balance les comprimés à la tête du détenu, qu'il n'a pas vu un éducateur depuis 12 ans, ou qu'il n'ait pas vu les travailleurs sociaux, c'est pas possible. Donc ça me révolte, je ne suis pas d'accord. Voilà, mais écoutez, je vous remercie, j'espère pouvoir m'exprimer auprès de vous, pas sur l'antenne, mais auprès de vous. Et en tout cas, c'est une très bonne émission malgré tout. Voilà, merci à vous. Au revoir.
Bonjour Daniel, j'ai mis beaucoup de temps à faire mon appel. Mais je tiens quand même à réagir suite à cette émission sur les prisons. C'est dommage, ça aurait pu être une émission intéressante, au moins un titre. C'était pour le témoignage du gardien de prison, c'est assez rare comme témoignage. Par contre, de faire témoigner des toxico-multi-récidivistes qui se plaignent parce qu'ils ont eu 30 condamnations et que le juge d'application des peines n'a rien fait pour eux, je trouve ça assez lamentable. Mais si je me rappelle bien dans l'émission, il y a un moment le gardien de prison qui dit il y en a quelques-uns qui ont réussi à se réinsérer d'eux-mêmes. C'est bien d'eux-mêmes. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Les autres, ils ne veulent pas se réinsérer. Ouais, il y en a peut-être quelques cas qui ont beaucoup de mal. Mais en général, celui qui veut se réinsérer, qui veut rechercher du travail, il en bave vraiment, mais il arrive à en trouver. Moi, j'ai connu des pensionnats dans les années 80 qui étaient bien plus durs que les prisons. On n'avait pas le droit à la nourriture perso, on n'avait pas le droit d'écouter de la musique, on n'avait pas le droit de lire n'importe quel livre, il fallait le faire signer par le surveillant. J'ai été privé de douche pendant plusieurs semaines, sans compter les coûts des surveillants. Je peux vous dire que je les connais aussi, les prisons. On ne va certainement pas plaindre les prisonniers. Dans le même temps, les victimes, je ne vois pas qui les plaint. Alors, vous avez dit la prison ne marche pas, mais si la prison elle marche, si la prison, la société est plus en sécurité lorsque le prisonnier, il emmerde personne dans la rue. Il vous dit ensuite le social ne marche pas non plus. Alors qu'est-ce qu'on fait?
Franchement, les prisons, on se demande à quoi ça sert, quoi. À part foutre les gens encore plus dans la merde, c'est archi inutile. J'ai aucun proche autour de moi qui est en prison, mais je pense à ceux qui y sont, parce qu'on n'en parle pas souvent. Et je pense surtout aux très jeunes, pour des délits pas très graves, qui sont enfermés. Donc je leur souhaite vraiment bon courage. Je sais pas comment ils font pour tenir le coup. J'aimerais pas être à leur place. Depuis le temps que ça existe, eh ben y a toujours des délits, quoi. Donc franchement, à quoi ça sert? À rien du tout. Ben, en tous les cas, super d'en avoir parlé. D'ailleurs, tu avais fait aussi une série sur les mineurs en prison, je me souviens. Et ça serait bien que tu la rediffuses, parce que voilà, c'était touchant. Et, moi, ça m'avait fait chialer grave. Je suis vraiment mais horrifiée de ce système de merde. Allez, au revoir et merci.
J'appelle parce que j'ai beaucoup apprécié l'émission d'aujourd'hui sur la prison et je voulais faire part de mon expérience puisque j'ai fait partie durant 2 ans d'une association, le GENEPI, Groupement étudiant national d'enseignement aux personnes incarcérées, donc à Poitiers quand j'étais étudiant là-bas. Donc j'allais en prison toutes les semaines pendant 2 ans et donc tu as donné beaucoup de chiffres sur la prison. Je voulais en donner un autre aux auditeurs de là-bas si j'y suis, c'est le nombre de prisonniers en France, puisque je crois que tu l'as pas donné, donc c'est un peu plus de 50 000 aujourd'hui. Donc voilà, ça fait en France presque une personne sur 1 000 qui est en prison, un habitant sur 1 000. Donc c'est vraiment considérable. Et donc au niveau de la surpopulation carcérale, je voulais juste expliquer un truc également, un élément, c'est Sur la question, en fait, de la surpopulation, on la subit surtout en maison d'arrêt, en fait. Donc normalement, les maisons d'arrêt, c'est pour des personnes en attente de jugement ou condamnées à moins d'1 an de prison. Et du coup, la surpopulation fait qu'on retrouve en maison d'arrêt un tas de personnes qui n'auraient rien à faire là, qui devraient être en maison centrale ou en centre de détention. Et la surpopulation, ça donne dans des cellules de 9 mètres carrés. Alors 9 mètres carrés, hein, on voit à peu près ce que ça donne. 3 personnes, voire parfois 4. Donc 3 lits superposés, parfois un matelas par terre. Et à Poitiers, on avait visité la maison d'arrêt. Et donc les WC, en fait, n'étaient pas cloisonnés. Donc ça fait que, voilà, vous voyez ce que ça donne. Les gens devaient faire, enfin le détenu faisait ses besoins devant les deux autres. Et l'autre élément, en fait, qu'il faut aussi souligner au niveau de la prison, c'est le manque de moyens de l'éducation, alors qu'il y a de l'éducation nationale, alors qu'il y a un tas d'illettrés, et d'analphabètes également, et le manque de formation qui pose un gros problème, justement, au niveau de la réinsertion, comme le sujet l'a évoqué aujourd'hui. Donc voilà, c'était Raouf de Niort. Continuez votre boulot, c'est super. À plus tard, salut.
26 septembre 2006, 7h. Quige, qu'acoustiquais-je ? La rue de presse, unanime, toute la gloire du bioéthanol. Par Clotilde Dumez, ni perdue de l'année, ni née de la dernière averse. Aucune circonstance atténuante, coupable de complicité. Courroie de transmission des lobbies pétroliers, pire qu'une pub. Énergie propre, des pompes vertes partout au bord des routes, et tout du même tonneau. Pompe Afrique, oui. C'est merveilleux, conclut Clotilde. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Le syndrome exact de Sir Bayrou, les médias à la botte du pouvoir et des lobbies puissants. Pourquoi pas un mot, pas un doute sur le bioéthanol promu par les multinationales et l'État français, alors qu'en même temps, les mêmes, via les douanes et le fisc, tombent à bras raccourcis à coups de garde à vue, d'amendes, de saisies, d'emprisonnement sur celles et ceux qui produisent et roulent déjà aux huiles végétales pures, tournesol, colza et autres. Comme Olivier Lenné, porte-parole de la Confédération Paysanne de Seine-Maritime, ou à l'injuste de Lot-et-Garonne, voir journal Campagne Solidaire numéro 210 de septembre 2006. De qui se moque-t-on ? Clo-Clo, ton métier, n'est-ce pas de lire ? De tout lire, de tout dire. Il y a une grande différence entre la réalité et les annonces mirobolantes qu'on nous fait. La réalité ne correspond pas du tout avec le discours. Organisation générale du mensonge, oui, comme OGM. Allemagne, Hollande, Autriche, tout le monde y a sa presse collective. En France, on accuse et on condamne les vrais pionniers bio ou écolo qui ne polluent pas.
Voilà, je vous appelle à propos des événements entre Guillaumet et Tarteret. Je voulais juste rappeler qui est le maire de Corbeil-Essonne. Il s'appelle Serge Dassou. Rappeler que c'est le premier endroit où s'est pointé Sarkozy lorsqu'il a été nommé sur son premier poste de ministre de l'Intérieur pour dire qu'on allait ramener l'ordre sur les quartiers. Je me demande s'il y a un rapport de cause à effet. Rappeler aussi que lors des premières élections de Dassault, la première élection comme maire de M. Dassault, la démonstration avait déjà été faite lors de sa campagne, de sa capacité à organiser la provocation, en déboulant sur les Tarterets pour aller coller avec des bandes de crâne rasées suivies de pas très loin par les CRS. Ça sent quand même l'instrumentalisation. Je rappelle à Bayrou qui s'exprime là au moment où je vous appelle, sur France Inter, et qualifie ce quartier de barbare qu'il y a quelques milliers d'enfants qui y habitent, quelques milliers de familles qui y habitent, et qui y sont scolarisés, qui y travaillent. Il y a quelques années, ce quartier a fait l'objet d'un projet de rénovation et de développement social, et que nous y avons beaucoup travaillé, dans des collectifs. Rappelez que lorsque j'ai quitté ce quartier où je travaillais, cela faisait 5 ans qu'il n'y avait pas eu de plainte pour agression à la suite de ce travail. Aujourd'hui, je me demande où sont passés les moyens. Moi, je demande, et je fais un appel à témoins, ici, sur ton antenne, Daniel, un appel à témoins sur les conditions dans lesquelles se sont passés ces événements, sur ce qu'est la vie quotidienne dans le quartier, sur ce qu'a été la politique de Dassault en matière d'animation et d'accompagnement social de ce quartier. Voilà, un appel à ceux qui y habitent et qui en ont marre d'être instrumentalisés dans le parcours politique de Sarkozy, dans le parcours politique de Bayrou, et pourquoi pas de la gauche plus rien, puisque la gauche plus rien ne s'exprime pas sur cette question. Voilà, servez-vous du répondeur pour dénoncer cette manipulation. Merci.
Et pourquoi pas, en effet, pourquoi pas, si vous êtes de Corbeil-Essonne, si vous êtes du quartier des Tarterets, à Corbeil-Essonne, si vous voulez témoigner, eh ben, la parole est à vous sur le répondeur de la base du GISPI au 01 56 40 37 37. Je répète, 01 56 40 37 37. Vous avez peut-être des choses à vous raconter, à nous dire sur la vie dans ce quartier sur lequel se projettent tous les projecteurs actuellement. Il faut dire qu'on est en train de préparer un reportage sur la Courneuve. Vous vous souvenez, la Courneuve, le Karcher, etc., dont plus personne médiatiquement ne se préoccupe, et on vous racontera un petit peu ce qui s'est passé après le passage de notre petit Bush et ses redemontades. Alors tout ça est très joli, mais nous, on est arrivé à Kaboul, en Afghanistan, et qu'est-ce qu'on apprend? Eh bien, c'est que Ben Laden ne serait peut-être pas mort. Oui, il serait peut-être encore vivant. Et en matière de rodomontade, on voit qu'il n'y a pas que celle du petit Bush, il y a aussi celle du grand W. Et oui, en cinq ans, même pas foutu de mettre la main sur Ben Laden. 5 ans, vous vous souvenez des raisons de l'offensive fin septembre 2001 après le 11 septembre? Eh bien, c'était Ben Laden, c'était Al-Qaïda, c'était les talibans. Eh bien, Ben Laden n'a pas été arrêté, n'a pas été trouvé, et les talibans sont de retour en Afghanistan. Le Mollah Omar n'a pas été arrêté non plus. Et le retour des talibans se passe avec un certain appui, et même un appui certain de la population, une population excédée par le chaos, la corruption, les abus, les inégalités de toutes parts, et le sentiment d'être occupé par les Occidentaux et ces satanés américains. 2400 ONG à Kaboul. 2400 ONG à Kaboul. Alors, heureusement, il y a l'opium. Eh oui, l'opium qui constitue 60% du PIB de l'Afghanistan et assure une croissance à deux chiffres. Une croissance à deux chiffres. Voilà qui ferait jubiler Jean-Marc Sylvestre. Une croissance à deux chiffres. Drôle de bilan quand même, au bout de 5 ans. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous étions là il y a 5 ans, en octobre 2001, et nous voilà fin septembre, début octobre 2006, à essayer de comprendre ce qui s'est passé au cours de ces 5 années. Est-ce que les promesses de 2001 ont été tenues, les espoirs, les horizons, et tout ça avec quand même pas mal de rodomontades. Voilà pourquoi nous sommes là, on vous racontera tout ça à notre retour. Aujourd'hui, dans la base, j'y suis, on va faire un tour avec René. René dans sa petite voiture. René le VRP en PLV. Précaire en costard. Working poor. On avait rapporté ce mot-là il y a très longtemps d'Angleterre ou des États-Unis, je ne sais plus très bien. Working poor, travailleur pauvre. Eh bien, ces travailleurs pauvres, on le verra dans les jours qui viennent, se multiplient. Ces travailleurs pauvres, ils seraient plus de 7 millions en France à être salarié, mais à ne pas pouvoir vivre, à être en dessous du seuil de pauvreté. Voilà, c'est la balade aujourd'hui avec René, le VRP, après les messages que voici et que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Je viens de quitter ma région natale, je suis suisse à moitié, et là je viens de voir que la Suisse a voté une belle loi de renforcement des mesures contre l'immigration, d'immigration choisie et de préférence nationale. Donc ben moi ça me fait quelque chose, et donc voilà, je voulais juste dire que moi j'ai pas le droit de vote en Suisse, mais que vraiment ça m'a fait mal de voir que 70% des gens avaient pu voter ça, et en même temps ça fait un peu peur de voir que nous, on a en France une droite qui risque d'arriver chez nous et qui véhicule ce même genre d'idées. Alors j'espère qu'on va tous se mobiliser pour que ça n'arrive pas. Et moi maintenant, je suis à Toulouse et il se monte des petits comités de quartier dans l'espoir d'un rassemblement de la gauche, la vraie, c'est-à-dire celle qui est à gauche du PS. Et on espère que ça va marcher. Voilà, c'était Yvan de Toulouse. Bonne journée à vous.
Bonjour, tous les jours je passe devant 2-3 mendiants à l'intérieur de Paris, devant un campement sous le périphérique. La tente a sans doute été donnée par Médecins du Monde. Je passe aussi dans l'Essonne, devant un bidonville, où j'estime la population à une centaine de personnes, voire plus. Bon, évidemment, ça me choque. Ce qui me choque plus, c'est que personne n'en parle dans aucun média, et qu'apparemment, je suis un des rares choqués. On n'en parle nulle part, y compris, on n'en parle pas non plus à la bâche si j'y suis. Voilà, c'était Bertrand de Paris. Je vais vous montrer exactement où c'est dans l'Essonne, si ça vous intéresse. Au revoir.
Oui, bonjour, François de l'Ardèche. Bon, bah, la semaine dernière, je me suis un peu planté pour le repère de Pont-Saint-Esprit. En fait, c'est ce jeudi, le 28 septembre, à 19h, au bar Le Concorde, à Pont-Saint-Esprit. Allez, portez-vous bien, mille bonnes choses, à bientôt. Ciao, ciao.
T'es affamé? Comme ça, c'est bien d'affamer les gens. Comme ça, après, t'es obligé de tout accepter. Après, t'es obligé presque d'aller pleurer, quémander. Pitié, donnez-moi du travail. Pitié, donnez-moi à manger. Pitié, donnez-moi un logement. Non, 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 c'est pas possible.
La bourse avec symphonis.com.
Eh bien, le CAC 40 est en progression. Je crois même qu'il reflirte à nouveau avec les 5200 points.
Toi, t'es en costard aujourd'hui? T'es en costard régulièrement? Tu t'es jamais laissé un peu dégringoler ou...
Ah, si, ça m'est arrivé. Avant que je retrouve du travail. Et qu'en plus, il est bidon. Et je crois franchement que on est beaucoup. On est beaucoup. Alors, ce qui serait bien, ce serait que toutes ces personnes se réveillent un petit peu. Se disent, purée, je vais pas quand même continuer comme ça à ramer toute une vie.
Ça se présente effectivement pas trop mal, plus 0,11% pour le contrat à terme actif CAC 40, 4 500 points.
Il faut savoir que le pire ennemi des profits, c'est le plein emploi.
Qui se chiffre à 1 milliard, 120 millions de dollars.
On est loin du plein emploi.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec François Ruffin, sur la route, avec René.
On rappelle la clôture d'hier soir sur les marchés américains, une séance importante.
Allô?
Oui, mais ça va?
On est sur la route?
Ouais, c'est du 3 au 21 avril, la mission. Donc c'est transition opticale. Je suis pas au SMIC, mais je le sais depuis le début que j'ai commencé cette mission. Je le sais que je suis pas au SMIC. Quand je dis ça aux opticiens, ils me disent non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Non, mais je te promets. Hein. Sans compter que hier, par exemple, je suis parti, il était, je dirais, 8h30. Je suis arrivé à 19h15. Je dirais en descendant de la voiture. Tu calcules, je me suis pas arrêté le midi. C'est un truc de fou furieux, quoi. Ok, ça marche. Allez, salut, merci.
Donc là, on vient de passer le péage sur la route entre Montpellier et Carcassonne.
Tout à fait.
Sur l'autoroute. Mmh. On est avec René Domergue.
Aujourd'hui, on va aller sur Carcassonne pour visiter des opticiens, pour déposer de la PNV, c'est de la publicité.
Là, on roule sur l'autoroute. Enfin, sur le volant, tu as déplié une pochette où il y a des trucs au stabilo.
Oui. Les stabilos, c'est ce que j'ai fait. Et les autres, c'est ce que je n'ai pas fait. Rien. Je suis passé... j'ai fait Nîmes, Montpellier, Béziers, Narbonne, Perpignan, Beaucaire, Saint-Gilles. C'est beau, Saint-Gilles. Je suis passionné d'art roman, donc le parvis est magnifique.
Et là, sur ta feuille, à Carcassonne, il n'y a que 5 points de vente où on doit aller.
Que 5, ouais. Que 5 points de vente. Donc les 5, j'espère que je vais les faire assez rapidement. Comme j'ai pas de GPS, j'y vais comme ça. Mais bon, j'ai l'habitude. Puis mon GPS, c'est les gens au péage. Maintenant, il y en a de moins en moins. Parce qu'ils sont en train de vouloir faire les trucs automatiques. Ils vont se retrouver au chômage aussi, ceux-là. Et puis les à chaque fois que je vais voir des gens dans la rue, au feu rouge, c'est mon GPS. Et ça marche.
Donc ça veut dire qu'on vient de faire 1h30 d'autoroute, de se taper plus de 100 bornes, juste pour déposer 5 trucs chez l'opticien.
5 trucs chez l'opticien, c'est-à-dire que, en fin de compte, pour 5,35€ par magasin, là j'en ai 5, que je mette une demi-heure ou que je mette 3 heures, La société qui m'embauche et le commanditaire, c'est-à-dire la marque, ils s'en balancent.
Donc là, il y a 1h30 d'autoroute à l'aller, 1h30 en retour, 3h d'autoroute pour 25 euros, plus le temps de déposer les trucs, quoi.
Ouais, exactement. Donc celui qui me reçoit mal, là, surtout en fin de mission, il va passer un mauvais moment, quoi. Parce que là, ça commence à me gaver. C'est normal.
Là, on passe au péage. Pourquoi tu prends pas le truc carte alors que ça va plus vite, il n'y a pas de voiture sur la gauche?
Alors, ben c'est simple. Moi, j'ai une carte bleue Electron. Donc, Electron, ça veut dire les pauvres. Les cartes Electron, c'est les cartes bleu clair. Moi, je trouve que c'est une carte de ségrégation. Tiens, tu vois là? Tu vois, rien. Il y a deux croix rouges là. En gros, Visa Electron, interdit. La Maestro, interdit. Ça veut dire qu'en fin de compte, Ce sont des cartes où ils appellent les centraux directement sur la banque. Je la sors pas de toute façon parce que mon compte il est rouge, quoi. Bonjour madame.
10,90.
10,90. Rendez-moi plus, s'il vous plaît. Donnez-moi une facture pour ma chère société. En tout cas, je vous souhaite bon courage parce que si ça continue, vous allez être au chômage là.
Ouais.
Hein, c'est vrai ou pas?
L'objectif, c'est...
C'est quoi l'objectif?
De limiter le personnel.
De limiter le personnel. Mais j'ai bien compris. Enfin, je vous souhaite bon courage.
Ben merci, vous aussi.
Ouais, au revoir.
Bonne journée, au revoir.
Au revoir.
Le dégroupage total d'accès à Internet désormais à la télévision. Depuis l'ouverture à la concurrence, vous savez, il n'est plus nécessaire, lorsque techniquement ce dégroupage total est assuré, ce qui n'est pas le cas partout, de souscrire un abonnement à France Télécom. Du coup, l'opérateur historique perd ses clients par centaines de milliers. Reportage dans le premier.
L'objectif, c'est de limiter le personnel. L'objectif, c'est de limiter le personnel. L'objectif, c'est de limiter le personnel. Elle l'a dit, la petite dame du péage. Elle l'a dit à René. René, dans sa voiture, dans sa petite auto, ben, il roule. René roule, il a 50 balais à peu près, René. Et il roule. Et si on devait, aujourd'hui, trouver, mettons, 10 personnes qui incarneraient notre époque, notre France aujourd'hui, qui serait la métaphore, qui serait l'allégorie de notre France d'aujourd'hui, qui serait l'emblème de ce pays. Et bien parmi ces 10 figures, il y aurait à tous les coups celle de René. René, une heure avec René, une heure dans la voiture avec René, René Demergue, il s'appelle. Et la question, c'est jusqu'où? Jusqu'où pourra-t-on supporter cette précarisation générale, ce sentiment d'inutilité et cette dégringolade? C'est une question. Imaginez, là c'est François Ruffin qui est dans la voiture avec René, mais imaginez, René, c'est le bon bougre, qu'il ait pris un jeune en stop, hein, un jeune, là c'était les vacances, un jeune lycéen, un jeune étudiant en stop, hein, un de ces jeunes qui s'est mobilisé contre le CPE. Et René raconte un peu sa vie, lui raconte un peu ce qu'il gagne, lui raconte comment il se débrouille. Il faudra pas s'étonner que le jeune lycéen ou le jeune étudiant qui aura écouté cette histoire se dise que c'est vraiment pas possible et qu'il va falloir faire quelque chose dans les semaines ou dans les mois à venir. C'est peut-être la conclusion que vous tirerez de ce voyage avec René dans son auto. C'est là-bas si j'y suis, sur France Inter.
L'épreuve d'amour en épreuve de l'existence. L'épreuve d'amour pour effacer les blessures d'enfance. L'épreuve d'insouciance en retour d'existence. Et l'épreuve d'innocence en cours de grande instance. Avec une touche d'élégance et de la nonchalance avance.
Avec la scoumoune et la chance, j'avance. Avec la scoumoune et la chance et une certaine motivation. Devant les pavas 5 millions, je vois dans elle décoration. Dès que je peux, j'en offrirai un moment que j'ai fait pleurer si souvent. Papa n'était pas en reste non plus, j'ai plus de réponse à calvitie. Que les années et le temps perdu, il disait. Ce qui nous arrive, c'est ce qu'aucun nous n'a jamais voulu. J'ai tellement poussé la vue, j'aurais mérité le beau cul, la pécole. Et même la strombolite aiguë. Si j'avais su, si j'avais cru, si j'avais vu, oh, j'aurais pu donner des preuves d'amour en épreuve de l'existence. Des preuves d'amour pour effacer les blessures d'enfance. Des preuves d'insouciance en retour d'existence. Et des preuves d'innocence en cours de grande instance. Avec une touche d'élégance, elle annonce, annonce, avance. Avec la scoumoune et la chance, avance. Avec la scoumoune et la chance, et comme pénitence. Ma de côté, j'ai relu la bonne distance, et puis sauté, je me lance. Et depuis que l'épreuve de mon insoumission dans bien des situations, attention. Inscrit dans ma respiration, le flow qui me mène jusqu'au conflit. Ou pas faire mais quelques solutions. La lutte, la fuite ou bien l'inhibition. Je me suis réfugié dans le sang, ma force de combat et de blabla. La lutte s'ouvre devant moi comme un gouffre sans fin. C'est la preuve de mon combat qui me renforce comme trois Bouddhas, je ne lâche pas. Ne crois que ce que je vois, mais ne m'appelle pas Saint Thomas, j'implose. Pas j'explose et je m'asphyxie aux vapeurs de mon téléviseur, qui est à l'image de nos erreurs. Il est déjà dans mon viseur, et je l'élimine face au pointeur à distance, comme Dalsim dans Street Fighter. One love, M comme ma grande sœur. Et des preuves d'amour en épreuve de l'existence. Des preuves d'amour pour effacer les blessures d'enfance. Des preuves d'insouciance en retour d'existence. Et des preuves d'innocence en cours de grande instance. Avec une touche d'élégance, c'est de l'annonce, annonce, avance. Avec la scoumoune et la chance, avance. Avec la scoumoune et la chance, ouais, avance. Avec la scoumoune et la chance, avance.
Livraison, c'est pas marqué livraison là ?
Là.
Là ? Mmh. Allez, vamos. On va aller voir notre pote là parce que j'ai pas envie de me faire allumer.
On descend de voiture pour aller chez un opticien à Carcassonne. On prend un carton dans le coffre.
Tu peux voir, c'est. T'as un chevalet dedans, t'as des portraits faits, un kakemono, ça s'appelle, c'est des espèces de grandes affiches. On appelle ça un kakemono.
Et je suis opticien.
J'en avais.
Bonjour monsieur.
J'en avais. Et voilà, je te raconte tout ça plus tard. Allez, au revoir.
Ah, j'aime bien l'accent. Monsieur. Du bien. Je représente Transition, je vous apporte de la BLV.
Ah oui.
Alors je vous dépose ça.
Oui.
Je suis tenu de vous le remettre, de vous l'ouvrir, de vous le montrer, tatati, tatata.
C'est bien, mais qu'est-ce qu'ils font, notre transition ?
Ouais.
C'est fantastique.
Il y a des opticiens, là j'en suis à 120, 130 opticiens que j'ai déjà fait.
Mmh. On le met à côté de l'autre présentoir, je les mets tous sur le deuxième bureau.
Là, ici ?
Voilà, tournez vers le... Au milieu. Tournez,
là ?
Voilà, tournez vers l'écran.
Ah ben, là, vous êtes gentil, super. Comme ça, parce qu'ils nous demandent si on peut prendre des photos. Oui. Et puis ça, je vous le confie, c'est un poster avec les accroches. Si vous le souhaitez par la suite, le mettre en vitrine ou voilà.
Je le fais.
Alors là, je vais mettre mes lunettes parce que les opticiens, ils m'ont engueulé parce que je mettais des lunettes à 10 euros, là. Vous savez, les loups. Ouais. Et ils m'ont dit, vous allez vous massacrer les yeux. Donc maintenant, je vous ai écouté. Et depuis que j'ai commencé ma mission, ça y est, je mets mes vraies lunettes. Ça, c'est les lunettes CMU, vous savez, les premiers prix. Mais bon, ça marche bien. Hein. Ça, c'est un petit ordinateur portable par ville. Je vais vous montrer, regardez. Là, c'est toutes les villes à l'Est, machin. Mmh. Il y en a pas mal que j'ai déjà fait. Donc là, on est à Carcassonne.
Ça, c'est pas moi.
Ça, c'est voilà, moi. C'est ça. Donc là, en fin de compte, c'est un reporting, on appelle ça. Mmh. Donc, il me pose des questions. Donc, il me demande le nombre de personnes qu'il y a sur le point de vente. Une. Ensuite, le nom du responsable.
Sauvagnac.
Ça, je m'en doutais. Accueil, excellent, moyen, machin. Moi, je mets... Très bon accueil. Emplacement chevalet, donc je mets comptoir. Emplacement kakemono sera par la suite. Est-ce que je peux prendre les photos de ma PLV que j'ai posée ou pas ?
Si vous voulez, sans problème.
Donc on prend une photo de la table.
De la PLV. Donc là, je fais comme ça. Hop. la rebelote. Alors, je prends dans l'autre sens. Mais alors, faut savoir que moi, là, ce que je suis en train de faire, moi, en optique, j'y connais rien du tout. Donc, mon job, c'est juste d'amener la PLV, de faire le reporting. Regardez comment on fait. Fin du relevé, lancer la transmission. Et là, tout ce que je viens de faire avec vous, les photos, et puis, ça part directement. Donc, ils savent à ce moment-là que je suis ici, chez vous, là.
Ben, c'est bien.
Voilà, c'est du Big Brother.
À votre avis, combien je suis payé, là, pour faire ce que je fais?
Vous n'en avez aucune idée.
Ben, je suis payé 5,35€ par magasin, brut. J'ai 150 magasins à faire, ça fait combien? Ça fait 800€.
Ouais.
Brut. Pour 3 semaines.
Ouais, ça fait pas beaucoup.
Et ils nous donnent 2€ par jour si vraiment on a bien fait notre travail.
Non.
Et si j'ai pas fait 10 magasins par jour,
ouais,
ils m'enlèvent ma prime repas.
Je pense pas que ça marche comme ça.
Regardez. Je vous jure, c'est vrai.
Donc là, t'as ouvert ton contrat de
tous mes papiers concernant...
Position.
Ça, c'est la boîte qui m'embauche. Votre rémunération, 5,35€ par visite effectuée et validée. Prime jour, 2€. Je n'ai pas menti. Et après frais, 11,8€. Un repas par jour pour 10 visites minimum.
Si vous êtes payé pour faire des visites, il faut bien les faire.
Ouais. On va voir si ça, c'est bien parti. Voilà. Transmission vers le serveur terminée. Basta. Voilà. Ah, j'ai fini.
Très bien. Merci de votre visite.
Allez, au revoir.
Au revoir.
Merchandising, il faut bien comprendre, il faut bien mettre l'accent, il faut merchandising, il faut bien prononcer. Hein. C'est comme reporting. Reporting, maintenant je vais faire mon reporting. Voilà. Voilà comment ça se passe aujourd'hui dans la vie de René. Il n'est pas seul, René. Hein. Il n'est pas seul. Son sentiment, c'est ça, c'est qu'il n'est pas seul. On ne doit pas être seul dans cette situation, pense-t-il. Et effectivement, c'est peut-être un peu ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Hein. C'est que chacun se croyait isolé dans sa précarité, se prenant un peu pour un raté, pour quelqu'un qui a loupé une marche, un petit peu en disant, bon, ben, ça va s'arranger. Là, j'ai perdu 3 cases, mais je vais me refaire. Et ça dure depuis des années. Chacun fait le dos rond dans son alvéole en attendant que ça se passe. Et puis, ben, ça se passe pas très, 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 très bien. Et on s'aperçoit qu'on n'est pas seul quand même. C'est ce qui se passe en ce moment. Je crois bien. Je dis pas que c'est ce que je souhaite, quoique.
Et pourquoi t'avais décidé de lancer une laverie alors?
Ben, parce que c'est où? Ouais. La maman de mes enfants voulait qu'on fasse quelque chose, quoi. J'aurais jamais dû. Avec le recul, j'ai voulu faire comme un petit toutou. Bon, je me suis vite aperçu que ça s'improvise pas d'être entrepreneur.
C'était un peu l'idéologie de l'époque, il fallait que tout le monde...
Ouais. Il paraît que ça revient. Il paraît que l'État incite les gens à monter des petites micro-entreprises. Quand première année, t'as pas de charge. Deuxième année, t'en as un peu. Troisième année, enfin, tous les gens qui ont fait ça, ils connaissent. Hein. Après, c'est l'enfer, quoi. Quand tu reçois du courrier, de toute façon, tout ce que tu penses, c'est que tu vas recevoir l'URSSAF, la TVA, organique, pour la retraite et tout, tu pètes les plombs. Là, t'es fou. Moi, là, à la fin, j'en avais des boutons. Quoi. À la fin, j'étais fou. Quoi. Heureusement, j'ai arrêté à temps, avant que les dettes s'accumulent.
Quand t'as eu ta laverie, quand ça a capoté, t'as cherché dans quel domaine?
Tous les domaines, la vente, commercial, manutention, enfin tous les domaines. J'ai travaillé pour des artisans aussi, dans le cuir, des boulons manuels. D'ailleurs, je me démerde pas mal, j'aimais bien faire ça. On faisait les foires, on montait des ceintures et tout pour les gens, c'était bien, j'aimais bien cette ambiance. Je connais des gens qui sont qui ont des petites entreprises de bois ou des choses comme ça, des potes, enfin.
Je lui dis, peut-être t'aurais pas du boulot pour moi. Il me dit, attends, tu connais pas en bois, tu connais pas en escalier, je vais pas t'embaucher, t'es gentil, mais donc, qu'est-ce que je vais faire? Et en plus, vu mon âge, il ne prennent pas en CDI, hein. Faut pas rêver. Hein. J'étais vraiment en carafe fin 2004, vraiment, j'avais plus d'argent, vraiment, et aucun salaire. C'est-à-dire que tout ce que j'avais fait comme travail, j'ai pas été payé. Donc je commençais vraiment à être vraiment à la gorge, c'était trop dur quoi. Donc j'ai trouvé ça, je faisais du merch, du merchandising. Je faisais beaucoup pour Club Internet. Je connaissais toute la région Rhône-Alpes, de Châlons, Dijon, Dôle, les deux Savoies.
Et quand tu faisais pour du merch, du merchandising pour Club Internet, qu'est-ce que tu faisais en fait?
Là je déposais de la PLV. Bon, ça passait à tel prix, donc on avait des fourreaux, on devait en magasin maquiller les boîtes avec des nouvelles offres.
Le paysage est superbe en même temps.
Ouais, c'est magnifique. Le canal du Midi.
Avec une péniche dessus, la péniche, le tournesol.
Ouais, c'est magnifique. Ouais. Il y en a encore une autre là-bas, plus récente. Il y a des trucs, tu peux trouver du boulot, style, je sais pas moi, vigile.
Et tu as déjà fait?
Bien sûr. C'est un truc de fou là, j'ai fait ça à Walibi.
Walibi, c'est un parc d'attractions.
Ouais, t'as tous les mecs qui essayent de rentrer là-dedans gratuitement. C'est toujours en train de se cogner, se bastonner. T'es toujours en train de courir par là, à droite, à gauche, en train de. Parce que les gars ils passent à travers les champs. Un truc de fou. T'es avec un espèce de talkie-walkie, ils sont fous furieux. Ouais, ça chauffe à tel manège appliqué, enfin des trucs de fou. Ouais. Je te promets.
Et en même temps, chaque boulot merdique comme ça, c'est un univers qui est découvert aussi.
Ah bah ouais, c'est quelque part c'est une richesse.
Levé matin, la salle de bain, tiens dans l'évier, tiens dans la main. Déjeuner, y a plus de pain. Café debout pour se mettre en train. Dans le frima, presser le pas. Dans l'autobus, se mettre en tas. C'est pas Tokyo, ni Calcutta. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Bonjour collègue, ça va la forme? Moi ça va, mais faudrait que je dorme sur le bureau. Dossiers énormes à classifier selon les normes. Les heures s'alignent sans éclat entre des chiffres et des kawas. C'est pas le goulag, c'est pas Zola. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. C'est l'heure de la pause, ticket resto, chez le chinois ou chez Mario. Excusez-moi les gars, mais je suis pas du lot. J'ai un rencard dans un bistrot. J'ai rendez-vous avec une fleur qui m'a rencontré par erreur. C'est pas Binoche ni Bassinger. On fait ce qu'on peut avec son cœur. Elle est pour moi tout un programme, un océan de vagues à l'âme. Je l'aime trop, je l'aime au drame. Tant pis si j'y laisse quelques larmes. Elle vit chez elle, je vis chez moi. Et quand on sera sous le même toit, ça sera pas le Ritz ni le Plaza. On fera ce qu'on peut avec ce qu'on a.
Donc là on prend l'essence chez Avia.
Ouais, super ambiance, ouais. T'as vu, musique, zizik, tout. Tu veux que je te dise la voiture? Je suis saoulé. Je te dis, j'ai fait le chemin de Compostelle, y a rien de mieux. Tu marches, tu sais pas où tu vas dormir le soir. T'apprends à vivre. Le chemin de Compostelle, pour moi, c'était une partie de plaisir.
Mais toi qui as de la bouteille?
La bouteille, j'aime bien ton mot, mais c'est un peu péjoratif. Mais bon, on va. Je vais acquiescer, on va dire.
Pourquoi c'est péjoratif, la bouteille?
Parce que pour moi, ça l'est, parce que je pense que la bouteille, c'est péjoratif, en ce qui me concerne. D'accord?
Parce que t'en as sucé à un moment.
Peut-être, ouais. Chacun son truc, je sais.
Pour toi qui as de l'expérience.
Merci.
Il y a 20 ou 30 ans, quand t'es rentré sur le marché du travail, c'était un peu la combine comme ça, dans tous les sens déjà, ou quoi?
Oh ben, je combine, c'est-à-dire...
C'est-à-dire, là, t'as un CDI à temps partiel, tes frais, tu dois les avancer, pas si tu vas être remboursé, t'es recruté sans contrat, c'était déjà ça, les premières expériences professionnelles que t'as eues.
Première expérience, c'était on t'embauchait, souvent c'était en CDI, ma mère m'a dit tu bosses. Donc j'ai commencé à la Tour Eiffel, j'étais serveur au deuxième étage. Je m'en souviendrai. J'ai commencé, c'est mon premier boulot. Donc j'ai eu de la chance. J'étais commis, quoi. J'étais larbin. Mais bon, c'était sympa. En plus, la Tour Eiffel et tout, c'était bien.
Et là, c'était quoi comme contrat? Alors, t'étais payé à la journée ou t'avais que le
contrat? Non. J'étais embauché en CDI. À l'époque, t'étais en CDI. Moi, je me souviens, je suis parti de la Tour Eiffel. Il y a un gars qui m'a dit, un jeune qui était chef de rang, donc je travaillais avec lui. Et un jour, il m'a dit, je vais travailler dans un super hôtel, tu viens, je te fais embaucher. Je dis, allez, ok. Le jour au lendemain, tu te retrouvais dans un autre boulot, en CDI. C'était l'hôtel Westminster. Tu vois, la place Vendôme, à Paris.
Alors que tu n'as même pas fait d'apprentissage dans le secteur?
Pas du tout. Je me suis pointé, le gars, il était fiable, il a dit, j'ai un gars qui veut travailler, bing, bing. Après, j'ai été juste un peu plus loin, tu fais quelques pas, tu te retrouves place Vendôme, il y a le Ritz.
Tu crois qu'il faudrait faire quoi aujourd'hui pour avoir les mêmes boulots?
Ah ben non, mais là aujourd'hui c'est même pas. Là on est passé à une autre étape, puisque maintenant il faut que tu aies fait soit l'école hôtelière, le machin, c'est même pas la peine d'en parler. À cette époque c'était ça. Mais t'étais en CDI, n'empêche. Puis les mecs ils te respectaient.
Côté valeur, l'actualité s'avère plutôt fournie avec une avalanche de publications de chiffres d'activité. Ceux dévoilés par Essilor sont plutôt appréciés du marché. Le titre bondit de 4,72%. C'est la plus forte hausse du CAC. Le leader mondial des aérophthalmiques a enregistré au premier trimestre 21,5% de croissance de son chiffre d'affaires. LVMH a lui constaté une augmentation de 15% de son volume d'affaires à 3,5 milliards d'euros toujours au premier trimestre. Le titre affiche un gain de 1,89%. Danone a quant à lui annoncé une croissance de 14,9% de ses ventes toujours au premier trimestre et a réitéré son objectif d'une croissance organique de 5 à 7%.
Une belle jambe, ça lui fait une belle jambe à René, ce genre de bonnes nouvelles pour la bourse et pour les marques pour lesquelles il bosse. Il bosse pour ces marques. Là, notre VRP, VRP, ça voulait dire, ça veut dire toujours voyageur représentant placier. Et c'est ce qu'il fait, ni plus ni moins, René Domergue, que René Ruffin, François Ruffin, pardon, a rencontré. Voilà, c'est ça son boulot. Comment ça se passe, ce boulot, aujourd'hui, quand on a 50 balais et qu'on arpente les routes de France en tous sens pour, c'est quoi? C'est l'infanterie du néolibéralisme, l'infanterie de la conso, quoi. Hein, ceux qui, vous entrez dans un magasin, vous avez besoin de lunettes, vous allez changer vos verres ou acheter des lunettes. Il y a toute une mise en scène dans ce magasin. Vous ne faites pas attention la plupart du temps. Et ben, pas du tout. Tout ça, c'est précis. C'est téléguidé. C'est contrôlé. Tout ça est vu de très, très près, très organisé. Et dans ce système, à l'intérieur de ce système, il y a des petits hommes qui font le boulot, si toutefois on peut appeler ça du boulot.
Là, il est quelle heure? Il est 11h52. Là, on va faire encore deux magasins. Après, on va retourner dans les roues, au niveau de Montpellier, un peu avant Montpellier. On va virer au nord, en direction de Mende, Pont de Millau et tout ça, touristique. Tu te rends compte la route, là, qu'on va se faire? Ça va être chaud, hein.
Donc, en 3h30, là, tu émarges à un peu moins de... à 15 euros brut, à peu près.
Ouais. En plus, ils m'ont livré... À chaque fois, chaque semaine, ils me livrent. C'est une palette entière.
tu te le livres en bas de chez toi, tu te démerdes. Alors donc moi, déjà, j'ai travaillé toute la semaine, le samedi, il faut encore que je sois là pour réceptionner une palette. Non, mais... Et les budgets sont énormes au niveau publicité et tout. Et en fin de compte, tu as été payé des cerises à la fin, rien du tout, quoi. On est payé à la tâche, en fin de compte, ils nous donnent des miettes, tu es affamé. Comme ça, c'est bien d'affamer les gens. Comme ça, après, tu es obligé de tout accepter. Après, tu es obligé presque d'aller pleurer, quémander, pitié, donnez-moi du travail, pitié, donnez-moi à manger, pitié, donnez-moi un logement. Non, c'est pas possible.
Et dans toutes les démêlées, alors, il y a des organismes qui sont là pour t'aider. Peut-être la NPE, des choses comme ça.
Non, je crois pas, là. C'est même pas la peine de m'en parler, ça me donne des boutons. Arrête. Non, là, c'est un truc qui fâche, ça. Ils m'ont allumé, ils nous ont proposé des boulots. C'est mémorable, je me souviens encore. Donc, j'étais au RMI, au moment où ils acceptaient encore de me le donner. Ils te convoquent à la NPE avec un papier en te disant, voilà, vous êtes convoqué tel jour. Si vous venez pas, on vous sucre les allocs. Donc déjà, tu te sens déjà pas très bien, fébrile, quoi. Déjà pas en pleine forme. L'autre, tu te dis qu'on va te sucrer tes 2000 francs de l'époque. Moi, en plus, j'avais pas de boulot. Je gardais les enfants, c'était mon boulot. Parce que leur mère avait un mi-temps. Donc, moi, au moins, je servais à quelque chose. J'ai toujours gardé mes enfants, donc c'est déjà ça. Je vais à la NPE avec le plus petit, qui n'était pas à l'école encore. Et donc, j'ai mis le petit sur des chaises dans la salle. On était une quinzaine, douzaine, je ne sais plus. Il y a deux femmes qui se pointent. Elles commencent à attaquer en disant, voilà, vous savez, vous avez le RMI, mais bon, on sait qu'il y a des gens, des fois, qui ne veulent pas travailler, qui profitent du système, ta. Bon, tu dis rien, tu te tais. Et ensuite, donc, elles attaquent en nous disant, vous allez aller défricher dans la montagne. Ceux qui savent se servir d'une tronçonneuse, lèvent le doigt. C'est une mission de 2 mois tout l'été. Et qu'il y a un bus... un petit car qui va venir nous chercher le matin. Il faut amener notre gamelle. Elle prend le premier gars à gauche, elle lui dit, bon, ben... Alors le gars, il dit, bah écoutez, moi, je sais pas, tu sais... Et il y en a une des deux, l'autre qui prend le relais, elle fait, attendez, monsieur, là, vous avez refusé ça. Et puis là, quand on vous a... ceci, cela, on vous a proposé ça, vous avez... Non, alors là, maintenant, vous pouvez pas refuser. Donc, ben, le gars, il dit, bon, ben, d'accord, bon, mais il avait peur chaud, quoi. Donc, il y a peut-être 4-5 gars avant moi qui étaient autour. Donc, pareil, ils passent à la moulinette, pareil. Et moi, j'ai dit négatif. J'ai dit, moi, je ne suis pas d'accord. Donc, elle m'a dit, attendez, monsieur, machin, voir des comptes. Ça fait combien de temps que vous êtes au RMI, machin? Oh là là, j'ai dit, écoutez, j'ai dit, si c'est vous qui avez pondu ça, j'ai dit, ma chapeau. Et je lui ai dit, en tout cas, vous avez qu'à y aller à ma place. Moi, j'irai jamais me couper une jambe ou quoi que ce soit. On n'est pas au goulag. J'ai dit, moi, négatif. Et de ce jour, ils m'ont mis au rouge à la NPE. Et quand t'as la tête dans la merde et puis que tu vois que t'as 15 glandus qu'ils ont ramassés sur Annecy et t'as l'impression que t'es les 15 plus nazes d'Annecy, t'as la tête qui explose, quoi. Tu te dis, attends, ils m'ont choisi moi, c'est que je suis le plus pourri de tout. Et de ce jour-là, ça s'est accéléré. Après, on m'a sucré le RMI, on m'a dit que je vivais maritalement avec la personne qui m'hébergeait. Le mec, le dernier contrôleur, il m'a dit...
C'est le contrôleur de quoi, là?
De la CAF. Ils sont assermentés, eux. Eux, ils t'allument, hein. Eux, ils viennent, ils rentrent chez toi, tu dois être là. Il rentre où il veut. Il rentre dans les pièces, il regarde, il fait ce qu'il veut. Moi, je dis, mais j'ai une amie, je n'ai pas de rapport avec cette femme. Cette femme m'héberge. C'est des gens qui sont humains, qui comprennent. Donc, ils m'ont retiré le RMI. Tu te dis, c'est pas vrai, là. Après, t'angoisses, quoi. T'angoisses, hein. Franchement, t'angoisses. Et après, j'ai été dégoûté, quoi. J'ai dit, bon, allez, je lâche tout. À un moment, tu es dépressif, tu dis, bon, hein, c'est bon. De toute façon...
Toi, t'es en costard aujourd'hui. T'es en costard régulièrement. Tu t'es jamais laissé un peu dégringoler ou...
Ah, si, ça m'est arrivé. Il y a... Avant que je retrouve du travail... Et qu'en plus, il est bidon.
Là, quand tu es sur Montpellier, tu habites chez ton frère.
Ouais.
Quand tu habites sur Annecy, tu habites chez une amie.
Voilà, exactement. Tu n'es jamais stable psychologiquement. Tu ne peux pas. Et moi, je suis en quelque sorte, si je n'étais pas hébergé, je serais SDF. C'est clair. Je suis propre, je veux dire, je suis présentable.
Donc, même parce que là, tu es en costard.
Ben ouais, mais
là, on croirait un opticien.
Voilà, voilà, c'est un peu ça. Voilà. Mais il faut passer aux apparences. Hein. Moi, je dors par terre sur un matelas, dans un salon. La personne accepte aussi que les enfants soient avec moi, comme ils ne sont pas turbulents, ils sont gentils, comme tout. Donc, j'installe un deuxième matelas. Donc, c'est assez marrant, d'ailleurs, parce que ça ne me déplaît pas, à la limite. Ça fait penser un peu aux pays, je dirais, comme en Afrique, ou tout ça, où les gens sont plus en famille, plus ensemble. C'est pas désagréable, c'est plus chaleureux.
Mais donc, maintenant, ça fait combien d'années que ça dure que...
Ça fait depuis 99.
Donc, ça fait maintenant 5 ans que tu dors sur un matelas à terre, ouais. Dans un coin de salon.
Ouais. Je le jure. De toute façon, je suis hors circuit et puis j'ai plus rien à moi. J'ai même pas de bien, j'ai rien. Rien du tout. J'ai juste une bagnole qui vaut soit 600 euros, c'est tout. Et j'ai un petit bureau, j'ai un fauteuil, un lit. Et voilà. Je veux dire, je suis léger avec ça. Remarque, c'est bien d'être léger. Mais j'ai mes enfants. La seule chose qui me tient, c'est les enfants. Je me dis, il va bien falloir que tu trouves une solution. Pour les enfants. Pour le reste, c'est même pas la peine de... J'ai pas vraiment d'espérance. Et je crois franchement que on est beaucoup. On est beaucoup. Alors, ce qui serait bien, ce serait que toutes ces personnes se réveillent un petit peu. Se disent, purée, je vais pas quand même continuer comme ça à ramer toute une vie.
Mais toi comment... Parce que tu dis, ça serait bien que toutes ces personnes se réveillent. Mais toi, comment tu t'es réveillé, quoi?
C'est une accumulation, je veux dire, toute une vie, c'est que j'ai 50 ans, donc t'as quand même un passé, t'as de l'expérience, j'ai vécu ce que les jeunes vivent aujourd'hui, en banlieue, la zone, les machins, et quand tu sais d'où je viens et où je suis arrivé, à la limite je me dis, ça va quoi, parce qu'il y en a plein qui ont mal tourné. T'as plein de gars qui ont mal tourné.
Qu'est-ce que ça a été ta premier indice de révolte de...
Premier indice, ça a été d'aller au prud'homme, bien sûr. C'est clair. Qu'est-ce que tu fais si tu dois aller au prud'homme? Il faut prendre un avocat. Donc, si tu prends un avocat, ça veut dire qu'il faut que tu payes. Pour payer, il faut de l'argent. Donc, c'est un cercle vicieux. Donc, moi, j'ai demandé la BAJ, enfin, l'aide juridictionnelle. Eh bien, on me l'a refusé. Donc j'ai fait recours deux fois. Deux fois ils m'ont refusé. Remis une couche sur une troisième fois, j'ai insisté et là j'ai raconté ma vie. T'es obligé, tu racontes ta vie. Encore une fois, t'es encore en train de pleurer. Alors là tu prends un papier, un stylo, et puis même avec des fautes et des ratures, tu racontes ta vie. Tu le fais d'un jet, puis je l'ai envoyé. Et puis là ils ont accepté. Ils ont percuté. Maintenant, aujourd'hui, je peux dire que j'ai l'aide, on l'a accepté. Trois fois. Je pense que, franchement, je pense à nos parents, enfin moi, en ce qui me concerne, la génération des gens qui se sont battus pour qu'on ait des droits, les congés payés, la sécurité sociale, toutes ces choses que les gens se sont battus pendant des décennies, et tout ça, c'est en train de partir en live. Ben, écoute... Moi, je veux bien. Hein. Mais après...
C'était un reportage de François Ruffin pour La Basse J'y suis de Daniel Mermet. Merci à René Doumer. Demain, on continue cette série d'émissions sur la précarité avec l'interview de Jacques Cotta, auteur de 7 millions de travailleurs pauvres, publié aux éditions Fayard. Ce soir, Arte consacre également un thème sur la génération des précaires à partir de 20h40. Et si vous souhaitez encore plus de renseignements sur ce sujet, vous pouvez aller sur le site de l'Association de défense des droits des salariés précarisés au www.addsp.org. Évidemment, toutes ces informations sont disponibles sur le site de Radio France. À la technique aujourd'hui Eric Marviel et Dimitri Gronov. Cette émission a été réalisée par Yann Chouquet et Koyan Guyen, assistée de Pascal Pascariello, et le chef du répondeur est Christophe Imbert. Vous pouvez laisser vos messages sur le répondeur de la Bastille J'y suis au 01 56 40 37 37.
France Inter présente le coffret hommage Henri Cartier-Bresson. Deux DVD contenant 5 films majeurs de Cartier-Bresson et 6 documentaires pour mettre son œuvre en perspective. Un livre inédit de textes, photos et documents d'époque.
Je n'ai aucun message à délivrer, rien à prouver, voir et sentir, et c'est l'œil surpris qui décide.
Henri Cartier-Bresson, un coffret DVD France Inter.
Il est 16h passé de quelques secondes, vous retrouvez Claire Servageon pour les informations.